Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler à présent du processus d'octroi de la subvention au lauréat du COPA, le concours plan d'affaires. Comment ça se passe concrètement? Nous avons dans ce studio Monsieur Jean-Luc Moilou, chargé des communications du programme du PADEM PME. Jean-Luc Moilou, bonjour.
Bonjour Jody Kachama, bonjour à tous les auditeurs des radios Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Nous aurons également en ligne Monsieur Val Massamba, coordonnateur des IF Entrepreneuriat. Il est aussi partenaire de ce programme, de ce concours de plan d'affaires. Il interviendra également pour nous en dire un peu plus des questions et préoccupations. Le sujet vous intéresse, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Et puis, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Oh Mario,
tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bienvenue dans cette émission. Une certaine agitation a été constatée parmi certains jeunes lauréats du concours de plan d'affaires COPA. Et certains soupçonnent même les détournements de leurs subventions par les organisateurs de ce concours. Alors, pour éclairer la lanterne de ces entrepreneurs, une matinée d'information et d'orientation sur le processus d'octroi de la subvention pour leur entreprise a été organisée hier par le PADEM PME avec ses partenaires. Alors, quel est ce processus d'octroi de la subvention, de l'octroi de la subvention? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne? Eh bien, vous êtes également lauréat à ce concours de plan d'affaires de PADEM PME. Eh bien, vous pouvez participer, le standard est ouvert, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Monsieur Jean-Luc Moilou est chargé des communications du programme PADEM PME. Alors, parlez-nous d'abord de ce projet PADEM PME et puis du concours plan d'affaires. Aidez-nous à comprendre de quoi s'agit-il.
Merci beaucoup, Monsieur Kachama. Pour parler peu et parler du PADEM PME, on va dire que PADEM PME, c'est la réponse que le gouvernement congolais a réservée à la nécessité de transformer son économie. Une économie qui, hier, dépendait essentiellement du secteur extractif, qui est, d'ailleurs on va le citer, le cuivre. Et aujourd'hui, les cuivres et ce modèle ont montré les limites de leur efficacité dans l'animation économique. Et du coup, le gouvernement congolais, l'État congolais s'est assis, il a réfléchi, il a mené des études et il a conclu qu'il fallait transformer son modèle de fonctionnement de l'économie, en passant de l'économie extractive vers une économie de la création de la valeur, l'économie de la transformation. Donc on parle de la nécessité de diversifier l'économie congolaise. Et depuis 2016, nous avons mis en place un document de stratégie, document qui propose la promotion de l'entrepreneuriat comme étant une réponse structurée et structurelle à ce qui se posait à nous comme crise hier. Alors, c'est à partir de ce document que nous avons abouti à un ensemble d'instruments dont le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, qui est mise en place depuis 2018 et dont les activités ont commencé en 2019. Le PADEM PME poursuit un seul objectif, c'est-à-dire appuyer l'entrepreneuriat, surtout dans les secteurs productifs. Il y a trois secteurs qui sont l'agrotransformation, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée. Ce programme est structuré autour des trois composantes en fonction de la nature ou catégorie des bénéficiaires. Il y a un programme qui soutient l'entrepreneuriat des femmes, il y a une composante qui soutient l'entrepreneuriat des jeunes et il y a une composante qui soutient l'ensemble de l'environnement ou de l'écosystème des PME, de sorte à créer un environnement compétitif, un environnement efficace qui permette de réaliser, d'atteindre les objectifs que l'on poursuit.
D'accord. Et après, vous avez lancé un concours de plan d'affaires et à l'issue de ces concours, combien d'entrepreneurs ont été sélectionnés pour bénéficier de la subvention?
Nous en sommes à un deuxième concours. En fait, le concours de plan d'affaires a deux visages. Il y a d'abord un premier visage qui est le visage principal, c'est un programme d'appui structuré, parce qu'on dit le PADEM PME, c'est le projet d'appui. Ce que nous apportons en termes d'appui, c'est le financement, mais c'est aussi un encadrement technique et l'amélioration de l'environnement d'exercice pour l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le premier visage du concours des plans d'affaires dans COPA. Mais lorsqu'on dit concours, on considère aussi la dimension compétition. C'est simplement un moyen de sélectionner les différents bénéficiaires de ce projet. Jusqu'ici, le PADEM PME a fonctionné comme un projet pilote limité à 4 villes seulement. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs demandes pour accéder aux appuis qu'on a mis en place. Et pour pouvoir faire les choses de manière objective, on a mis en place un concours. Donc nous avons lancé un appel à candidature. Les gens ont soumissionné sur une plateforme digitale qui a été créée pour le besoin de la cause. Mmh. Les candidatures ont été évaluées. Nous avons mis en place une structure d'encadrement technique avec un partenaire très aguerri dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à sélectionner les bénéficiaires qui doivent accéder à ces appuis que le gouvernement a mis en place. Il y a deux principales catégories. Il y a la première catégorie, celle des PME établies à potentiel de croissance. Avec cette première catégorie, nous avons déjà déployé le programme, on va dire, au-delà des 50%, parce que la sélection a été faite depuis octobre de l'année, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut pas que je raconte des bêtises. La sélection a été faite depuis l'année dernière. Mmh. Et puis, nous sommes passés à la mise en œuvre du programme d'accompagnement technique. Donc, le décaissement de la subvention, c'est une réalité aujourd'hui.
Le financement total est de 100 000 dollars.
100 millions de dollars, c'est l'ensemble du programme. D'accord. Mais pour ce qui concerne le concours des plans d'affaires, qui relève de ce que nous appelons le développement des PME, donc il y a 26 millions de dollars consacrés aux PME à potentiel de croissance et 17 millions réservés aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Donc j'étais en train d'expliquer que dans le cadre du COPA, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est lancer le programme de soutien aux PME, qui est déjà très avancé, parce qu'ils ont reçu l'argent et ils sont accompagnés aujourd'hui. Et la plupart des PME sont en train de réaliser les projets sur lesquels elles avaient été sélectionnées. Nous avons également lancé une deuxième partie de ce programme. J'ai parlé du soutien aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Depuis, nous avons fait l'appel à candidature, nous avons évalué les candidatures, nous avons sélectionné les bénéficiaires et nous les avons proclamés. Depuis le 11 novembre que nous avons commencé à Kinshasa, jusqu'au 29 novembre, à Matadi, nous avons clôturé avec cette première étape qui est l'étape de la proclamation.
Dans quelques villes. Donc, il y a eu des bénéficiaires à Matadi, à Goma, à Lubumbashi et à Kinshasa.
Et d'accord. Au niveau des jeunes, il y en a 964. D'accord. Au niveau des PME, 436. Au niveau des jeunes, 964. Et au niveau des jeunes, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Après la proclamation des résultats, il y a eu dans certaines villes des séances d'orientation et des sensibilisations pour que les gens comprennent qu'est-ce qui va se passer et comment les choses vont se passer. Et malheureusement pour Kinshasa, nous ne l'avions pas fait pour la bonne et simple raison que Tout cela est tombé en pleine période de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Donc,
il n'était pas possible
de réunir 374 jeunes pour pouvoir leur parler. Et depuis hier, c'est chose faite. Mais bien avant cela, nous avions trouvé d'autres moyens de mitigation par rapport à la crise pour faire un travail d'approche, un travail de proximité avec le jeune, ce que nous appelons le cadrage individuel. Donc ça a été fait et nous en sommes aujourd'hui au déploiement du programme qui a commencé depuis.
D'accord. Professeur Val Massamba, vous êtes coordonnateur de IF Entrepreneuriat, partenaire de ce projet COPA. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour les auditeurs de la Radio Capi et bonne année 2022.
Merci, bonne année à vous également. Alors, il y a eu une certaine agitation parmi les jeunes bénéficiaires, les jeunes qui ont les lauréats du projet COPA, du concours de plan d'affaires. Et d'ailleurs, certains vont même jusqu'à vous accuser d'avoir détourné les subventions. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
C'est vrai que machination et manipulation, et de toute façon, on a affaire aux jeunes. Les jeunes sont bouillants, c'est normal. S'ils n'ont pas suffisamment d'informations, ils peuvent déraper, ils peuvent dévier, et ce sont des choses qui arrivent. On n'en est pas une première fois, ça arrive souvent. Nous qui gérons des masses, des étudiants, parce qu'on est professeurs d'université également, et on sait comment ça se passe. L'essentiel, c'est d'arriver à faire comprendre aux jeunes ce qui se passe et comment ça se fait. Comme Jean-Luc venait de le dire, c'est l'octroi de la subvention à l'issue du concours de plan d'affaires est un long processus, un processus qui exige une certaine patience et beaucoup plus de concentration de la part des jeunes qui cherchent à développer leur entreprise ou à en créer. Nous, qui gérons Kinshasa et Matadi, on est bien avancé avec les jeunes parce que, comme Jean-Luc a dit, c'était à peine le 11 novembre que nous avons publié les résultats et immédiatement après, les jeunes étaient pris en charge par leur cadrage qui devait permettre de le refixer par rapport à leurs objectifs à atteindre, par rapport à leurs projets individuels. Et en même temps, qui devait les aider à réunir des éléments qui doivent permettre la signature de conventions de financement. Donc, vous comprenez, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de l'argent si vous n'avez pas signé une convention donnée. Et c'est préalable, c'est quoi? C'est préalable, c'est d'avoir un tableau de cadrage qui fixe les objectifs, un plan de travail de 45 jours renouvelables, tous les 45 jours, et un budget de trésorerie qui montre le plan de décaissement et d'encaissement d'argent. Plus les aspects liés à la formalisation de l'entreprise, ces éléments étant réunis, eh bien, les jeunes deviennent éligibles à la signature de la convention. Et la signature de la convention n'a rien à voir avec le décaissement réel de l'argent. Et donc ça, c'est un premier processus. Et donc, ce travail a été fait au courant du mois de novembre et au courant du mois de décembre. Donc, il n'y a pas eu de tempo du tout, contrairement à ce qu'on est en train de raconter, il n'y a pas eu de tempo et les jeunes qui venaient étaient bien informés du processus, la façon dont ça devait se dérouler. À l'issue de la signature de convention, eh bien, le PDM-PME aura le feu vert ou la validation pour ouvrir des comptes dédiés pour chaque jeune entrepreneur, même si vous avez votre compte, vous aider à ouvrir d'autres comptes spécifiques COPA, dans lesquels comptes vous pouvez effectuer vos opérations et commencer à toucher à votre subvention et en même temps constituer l'épargne exigée par les projets. Ce sera une épargne progressive qu'il faudra constituer. Mais pour accéder à ces processus, il faudra d'abord que le jeune apporte des factures pro forma qui soient conformes. Il y a des critères qui ont été définis pour les factures pro forma. Et c'est d'ailleurs là on lance l'appel aux opérateurs économiques congolais d'être beaucoup plus souples avec les jeunes qui viennent au nom du COPA pour leur octroyer des factures pro forma conformes. Parce qu'il faut reconnaître que également l'espace économique congolais étant désarticulé, même les entreprises qui fonctionnent ont du mal à produire des factures pro forma conformes. Et ça, c'est grave. Donc, on a beaucoup de boulot à faire. Et les jeunes accusent ces gens de lacunes, de discuter, mais ils sont obligés de nous apporter les factures en forme. Et c'est toujours 3 factures à sortir d'un PV de sélection de la meilleure facture ou du meilleur fournisseur, sans lesquelles la validation ne peut pas se faire. Une fois qu'on a ces éléments et qu'on les valide à notre niveau, ça peut remonter au pas d'un PM. Ça peut remonter d'abord sur sa part de l'IF, sa part d'équipe entrepreneur, et ça remonte au niveau du consortium pour une nouvelle validation de ces factures. Une fois qu'on se met d'accord au niveau du consortium, le consortium c'est en fait un regroupement des firmes qui mettent en œuvre la commission des plans d'affaires. Nous sommes
consortium Deloitte.
Nous sommes avec Deloitte, nous sommes avec Kiva Entrepreneur et nous IF. Une fois validé en ce moment-là, nous pourrons à ce moment-là envoyer maintenant les factures au niveau du parc d'IPME qui à son niveau va encore les valider avant d'effectuer les opérations de décaissement, évidemment, sous l'avis de notre direction de la Banque mondiale. Donc, l'argent arrive dans les comptes du jeune, mais le jeune n'a pas accès à cet argent jusqu'à ce qu'on va envoyer cette fois-là des factures au niveau du banquier. Le banquier va avoir les factures et le jeune, à son tour, va amener la même facture qui était validée, plus le bon de commande auprès de son banquier. Et ce dernier va le comparer avec le dossier qu'il y a dans sa base de données, surtout que c'est conforme, qu'il n'y a aucune lacune à ce moment-là, les versements de l'argent peut être effectués vers le fournisseur qui a été renseigné, pas directement vers le jeune. Le jeune va juste signer un ordre de virement et envie l'argent vers le fournisseur. Le jeune ne touche pas de l'argent parce qu'on connaît ce qui se passe après si on n'arrive pas à encadrer le processus. Donc vous comprenez qu'avec ce processus qui est bien structuré, bien fait, bien monté, en intégrant les contextes congolais dans ces méandres, ne peut pas favoriser d'une quelconque manière un détournement des fonds.
D'accord.
Donc ce n'est qu'une machination et ce n'est qu'une manipulation des jeunes, ces pauvres innocents qui plutôt devaient être de bonne foi.
Voilà, merci professeur. Qui les manipule? Bon, on va peut-être les découvrir tout à l'heure. Jean-Luc Moilou, vous avez quelque chose à dire par rapport à... Vous voulez répondre si on sait que le professeur a dit?
Oui, cher Jeudi, moi je souris un peu lorsque j'entends parler des détournements des fonds dans le cadre de ce projet. Et surtout, bon, je n'irai pas aussi loin que le professeur Massamba pour dire que les jeunes sont manipulés, quand bien même cette possibilité n'est pas tout à fait à écarter.
À exclure, ouais.
Je crois que c'est plutôt une question de manque d'information, voire de la sous-information. Hein, et bon, tout ça peut aboutir aussi à la désinformation. Pour celui qui est informé, des procédures qui sont mises en place, il ne peut pas un seul instant imaginer que l'on puisse détourner l'argent de la Banque mondiale ou l'argent des bailleurs dans le cadre de ce projet. D'abord, le projet lui-même est né de l'accord de financement conclu en 2018 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Cet accord, c'est ça la constitution des bases de ce projet. Et l'accord fixe même les règles des fonctionnements et les règles des décaissements. Au-delà de cet accord, il y a un certain nombre de procédures. C'est des procédures comptables et financières, des procédures administratives, mais également des procédures d'audit et de contrôle à tous les niveaux. L'argent dont on parle là, les jeunes, les 960 jeunes peuvent même demander aux 430 PME.
Oui.
Personne ne voit cet argent, personne ne touche cet argent.
C'est ça la question que j'allais poser, le professeur Val l'a dit tout à l'heure. Personne ne touchera l'argent en main. Ou n'aura même pas l'argent dans son propre compte.
C'est des écritures qui passent des comptes à compte.
Oui.
Les bénéficiaires auront l'argent dans leur compte, mais c'est un compte dédié et soumis à des conditions. Tout sera clairement défini
donc,
dans le cadre de la convention
d'autres,
des
d'autres comptes bancaires.
Ils vont ouvrir un compte spécial COPA.
D'accord.
Nous avons 2 banques avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'ici. J'espère qu'elles seront reconduites pour que nous puissions travailler. Donc, chacun va choisir la banque vers laquelle s'adresser et l'argent sera logé dans un compte dans cette banque-là. Et pour décaisser, il y a toute une procédure que le professeur Massamba a décrite tout à l'heure.
Il a parlé des factures, des
pro forma. Et il y a un certain niveau de validation à tous les niveaux. Et les acteurs qui sont impliqués, je ne vois pas comment ils peuvent se mettre ensemble pour permettre qu'il y ait un détournement. Au-delà de ça... Le projet, c'est un travail d'éducation même au niveau entrepreneurial, au niveau managérial. Nous partons de très loin. Ce projet est pédagogique, ce projet est pilote. C'est le tout premier projet de ce type.
Par exemple, un jeune qui veut acheter des machines, renforcer son entreprise, et il amène les factures des trois fournisseurs et puis il présente à la banque.
Tout commence d'abord au niveau du cadrage par le plan d'action ou le plan d'activité qui convient avec son coach. Nous avons commis un coach à chaque entrepreneur. Donc, chaque entreprise a un conseiller technique dédié que nous appelons coach, qui nous proviennent de structures qui ont les compétences en matière d'entrepreneuriat, en matière de management. Donc, chaque entrepreneur, chaque bénéficiaire travaille avec son coach. Ils conviennent d'un plan de travail qui est régulièrement mis à jour. Et on lui apprend, s'il ne les connaît pas, les procédures pour pouvoir actionner les activités dans le cadre de son projet. Et donc, il n'y a pas lieu de supputer ou de spéculer sur un prétendu détournement. C'est tout simplement impossible.
C'est tout simplement impossible. Alors, professeur Val Massamba, pourquoi toutes ces mesures d'encadrement autour de l'octroi de cette subvention, qu'est-ce que vous craignez? C'est par crainte de dilapidation ou quoi exactement?
Non, mais Jean-Luc le disait tout à l'heure, nous sommes en train de reconstruire un certain patriotisme économique du pays, de recréer une classe moyenne, une bourgeoisie national solide qui doit prendre le destin économique de ce pays en main à travers les jeunes et à travers les PME à fort potentiel de croissance et en même temps, et s'il faut construire un tel patriotisme, il faut aussi essayer de bien diagnostiquer les contextes dans lesquels on évolue. Et c'est dans mes écrits, dans mes différentes publications scientifiques, vous pouvez les lire, quand vous menez l'analyse de la question entrepreneuriale en RDC et même de l'environnement congolais, vous allez remarquer que notre pays souffre de deux problèmes. Le moindre effort et le non-respect des engagements. Ça, c'est ce qui nous caractérise véritablement et c'est ça qui fait véritablement qu'on n'arrive pas à se projeter véritablement vers de grands rendez-vous économique et un site international. Et à ça, il faut s'ajouter le fait que on n'est pas solidaire, on travaille pas véritablement ensemble comme le feraient d'autres communautés. Et donc, dans ce cas-là, par rapport à ces différents mots, il fallait mettre sur pied des mesures qui permettent véritablement à reformater le mind des personnes que nous allons accompagné dans ce coup de pouce à l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on a mis ces différentes mesures de façon à y arriver. Et donc, si on les mettait pas en place, eh bien, on court le risque d'avoir de l'argent être dilapidé, comme par le passé, que les entrepreneurs obtiennent l'argent, mais que ce n'est pas véritablement affecté à l'objet pour lequel ils ont été financés. C'est comme ça que beaucoup de banques sont réticentes à octroyer des financements aux PME. Et donc, on a pris toutes ces mesures. Je veux revenir sur le fait que la subvention en soi n'est qu'une conséquence de l'action de renforcement des capacités qu'on est en train d'accorder aux jeunes et aux PME. On ne peut pas accorder de l'argent à un individu qui n'a pas de compétences véritablement requises. Ils ont peut-être cette motivation à entreprendre, mais ils ont des limites entrepreneuriales. Et ce sont ces limites entrepreneuriales que nous devons combler et pour que lorsque véritablement l'argent va leur arriver, eh bien que le travail arrive à se faire. En 15 ans d'expérience, nous avons créé le premier incubateur d'entreprise en RDC, la première pépinière d'entreprise en RDC, les premiers quartiers industriels pour petites industries en RDC, qui a quand même en partie inspiré le projet aussi par l'IMPM au niveau de la Banque mondiale. Et donc, on a compris comment les choses évoluaient dans notre pays. Et donc, il fallait en ce moment-là développer aussi des stratégies qui permettent aux jeunes et aux PME aguerris arriver à aller vers la compétitivité internationale, répondre à la concurrence étrangère, aussi bien sûr à son territoire qu'au niveau international. Vous savez, l'Afrique devient un marché commun et nous subissons déjà les influences des produits des pays voisins, la Zambie, le Rwanda, l'Angola, et c'est une concurrence quand même assez farouche. Il faudra quand même que nous arrivions déjà à préparer notre base économique de façon à répondre à cette concurrence. Si on n'arrive pas à véritablement à poser des garde-fous, eh bien, nous ne pourrons pas nous en sortir. Voilà pourquoi il y a toutes ces mesures.
D'accord. Nous parlons du processus d'octroi de la subvention, des subventions lauréats du COPA, du concours de plan d'affaires de PADEM PME. Patrice Moudérois, merci à tous les internautes qui ont réagi sur Facebook, sur la page Facebook d'Okapi Service par rapport à ce thème. Patrice Moudérois, qui à Bukavu, nous dit ceci: je pense qu'il était plus que nécessaire de faciliter la tâche à ces lauréats en les orientant bien avant sur les modalités à suivre afin de bénéficier de leurs subventions au lieu d'attendre la pression de leur part, sinon ces comportements des organisateurs fait allusion, fait penser déjà au détournement. Pourquoi, lorsque ces lauréats avaient été retenus, les documents d'orientation n'ont pas été mis à leur disposition déjà en ligne à ce moment-là? Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez dire à Patrice?
Bon, je dis ceci à Patrice. Je disais tout à l'heure que le projet avait également une dimension pédagogique. Dans notre pays, ça fait des années que nous avons perdu la notion de la norme. Et aujourd'hui, de plus en plus, tel que nous sommes en train de nous déployer, nous constatons que nous nous sommes très éloignés des bonnes pratiques en général. Si nous parlons des procédures, ces procédures sont écrites, ces procédures sont publiées, elles sont disponibles. Mais il y a un fait, le fait c'est que les gens ne lisent plus. Les procédures dont nous parlons là ont été partagées pendant toute la période d'encadrement des bootcamps. Donc parce que, par exemple, chez les jeunes, les 1550 présélectionnés qu'on a retenus au mois de juin ont été soumis à une formation intensive sur l'élaboration des plans d'affaires, sur la préparation de l'étape finale, mais aussi on leur a parlé de manière générale sur le projet et sur les prérequis pour accéder au financement.
Mais donc, ils sont au courant de tout ça.
Ils sont au courant en principe. En principe, ils sont au courant. Et si vous allez sur, il y a eu une plateforme dédiée au COPA, c'est copa-padempme.org. Il y a toutes ces informations. De même que sur padempme.cd. Mais je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi toutes ces procédures? Il est important que dans notre pays, on apprenne à revenir au respect des normes. Ces procédures qu'on a mises en place ne sont pas extraterrestres. C'est des procédures qui sont appliquées de manière générale dans tout État qui se respecte.
Mais chez nous, lorsqu'on parle de procédures... C'est pour garantir aussi la bonne utilisation
de ces fonds. Déjà la transparence et la bonne utilisation de ces fonds. Vous savez que ce financement des 100 millions sera donné, est en train d'être donné gratuitement à tous les bénéficiaires. Mais en réalité, ce n'est pas gratuit pour l'État congolais. Qui un jour, au bout du cycle, peut-être après 20 ans, aura à rembourser, parce que c'est un crédit, c'est un prêt que la République a réussi à décrocher auprès de la Banque mondiale. Cet argent sera remboursé. Et donc l'État ne peut pas jeter son argent dans la rue. Il ne peut le donner qu'à certaines conditions qui lui garantissent la réussite des objectifs qu'il s'est assignés. Et donc... toutes les conditions ont été mises en place pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous voulons atteindre, mais que le bénéfice soit pour tout le monde, c'est-à-dire pour les lauréats sélectionnés, mais également pour l'État qui attend de ce projet la création des entreprises qui fleurissent, qui pourront demain payer les impôts et lui accorder les moyens de fonctionner, des gens qui pourront créer des richesses. On parle de plus en plus de la vision des autorités ou la vision du président de la République qui veut créer des missionnaires, des millionnaires. Mais il n'y a pas mille manières de créer des millionnaires que par l'entrepreneuriat, que par l'investissement. Et pour ça, nous devons nous départir de nos mauvaises habitudes, de la culture de la facilité. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. L'entrepreneuriat, c'est un travail des leaders. C'est des gens qui entrent et qui prennent. Si on devait utiliser une métaphore biblique, on dirait c'est comme le royaume des cieux, il est ouvert, mais ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Si vous restez là, dans votre coin, vous attendez qu'on vienne vous mettre la nourriture dans la bouche, vous mourrez de faim et vous n'arriverez à rien.
Alors, on peut dire que ces jeunes-là qui seront subventionnés n'ont encore rien commencé. Ils n'ont que leurs idées sur papier et ils attendent ce financement pour démarrer.
Bon, là-dessus, le professeur Val va vous donner les différentes catégories qu'on trouve dans les 960. Mais de manière globale, nous attendions dans cette catégorie les jeunes des 19 à 30... Des 18 à 35 ans. Certains ont déjà des entreprises. Et d'autres n'ont pas d'entreprise. D'autres ont simplement une idée d'entreprise. Et donc, c'est dans cette fourchette-là. Il y a plusieurs catégories et le professeur Massamba peut vous en parler avec moult détails parce qu'il a fait des statistiques là-dessus et le programme que nous sommes en train de déployer marche en tenant compte des différentes spécificités.
Vous voulez participer à cette émission, le standard est déjà ouvert, composez le 081-890-6394, nous parlons du processus d'octroi de la subvention pas d'un PME au lauréat du COPA.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous parlons du processus d'octroi des subventions aux lauréats du concours de plan d'affaires de PADEM PME. Nous avons en ligne le professeur Val Massamba, coordonnateur de l'IF Entrepreneuriat. Professeur, je rebondis sur la question, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure avec Jean-Luc. Et quelles sont les différentes catégories des bénéficiaires? Parce qu'il y a les jeunes, il y a les PME existantes et parmi ces jeunes, il y a aussi d'autres catégories. Pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Oui, évidemment, principalement, on a des catégories. Hein. Principalement, on a les catégories de jeunes qui ont déjà leurs entreprises et on a une autre catégorie des jeunes qui sont en idéation, c'est-à-dire qui vont concrétiser leur projet d'entreprise en entreprise. Mais maintenant, sur le plan technique, nous les avons recatégorisés en trois ou quatre groupes. Le premier groupe, ce sont des jeunes qui ont eu à créer leurs entreprises avant 2021. Parce que on suppose qu'ils ont eu certaines expériences, qu'ils n'ont pas profité véritablement de l'arrivée de la compétition des plans d'affaires pour se mettre en ordre. Et donc, pour ces jeunes-là, il y aura aussi un type d'accompagnement spécifique qui leur sera dispensé. Nous avons la catégorie des jeunes qui ont créé leurs entreprises en 2021. Quand je dis créé, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu des papiers juridiques de création du type RFSM, Identification Nationale, en 2021. Pour ces jeunes, il y en a parmi eux, ceux qui ont réellement des entreprises, mais pour la plupart, ce sont des jeunes qui ont juste obtenu des papiers juridiques pour augmenter leurs chances d'être retenus dans la compétition des plans d'affaires. Et vous avez la troisième catégorie, ce sont des jeunes qui ont eu à créer, c'est vrai, leurs entreprises bien avant, mais qui sont là pour lancer de nouveaux produits sur les marchés ou qui sont en idéation de mettre sur pied de nouveaux projets. Donc, ce sont des jeunes comme ça qui vont également bénéficier d'un autre soutien spécifique, d'un accompagnement spécifique par rapport au stade de leur projet. Et enfin, on a la catégorie des jeunes qui sont sans RFSM. Et cette catégorie des jeunes qui sont sans RFSM sont également sans dans deux. Vous avez des groupes de jeunes qui ont des activités économiques, mais dans l'informel, que nous devons aider pour aller vers la formalisation. Et vous avez le type de jeunes qui sont totalement néophytes, qui sont en phase totalement d'idéation, c'est-à-dire de construction de projets qui doivent se convertir en entreprise. Voilà en fait les différentes catégories que nous avons. Et pour chaque catégorie spécifique, il y a un accompagnement adapté qu'on devra leur octroyer.
Bien. Jean-Luc Moilou, est-ce que les 964 jeunes sélectionnés, est-ce que tous, ils ont déjà ouvert leur compte bancaire dans les deux banques dont vous avez fait allusion, les deux banques partenaires,
Nous n'en sommes pas encore là parce que le point de départ, on le rappelait encore hier, c'est d'abord en finir avec la constitution de leur entreprise. Nous ne traitons pas avec des individus. Nous traitons avec les entités économiques.
Donc, ils doivent déjà aller au guichet unique de création d'entreprise.
Le point de départ, c'est la formalisation de l'entreprise, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et une fois qu'on aura franchi cette étape, on leur a accordé un certain délai pour ça, une fois qu'on aura franchi cette étape, on va passer à une autre étape qui consiste à signer la convention de financement, et ce n'est qu'après qu'on pourra ouvrir des comptes dédiés à la subvention COPA dans le cadre du projet.
Et après l'ouverture de compte, ils vont amener les factures.
Et dans voilà. L'intervalle, le travail d'encadrement avec les coachs continue. Il y a la collecte des différents éléments des dossiers et des différents éléments qui rentrent dans le plan de déploiement. Et au finish, dans la procédure, une fois que tous les documents sont validés, on passera au décaissement.
Et tout cela prendra combien de temps? Est-ce qu'on a une idée? Ça peut aller... jusqu'à quelle période de l'année?
Bon, plus vite les gens pourront présenter les documents, plus vite on pourra avancer. Mais l'option qui a été levée, compte tenu de l'expérience qu'on a connue avec les PME établies, c'est d'évoluer au fur et à mesure que les gens sont prêts. On va traiter les gens au cas par cas.
D'accord.
Parce qu'il y a 960 dossiers. Si vous attendez d'avoir les 960 qui soient prêts, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Nous avions hier 430 PME. Ce n'était pas facile de pouvoir, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la signature de la convention de financement, vous signez avec 430 documents, vous voyez ce que ça donne.
Ah oui, c'est énorme.
On va évoluer avec le plus rapide. Ici, j'ai parlé tout à l'heure des violents. Les entrepreneurs, c'est des compétiteurs, c'est des gens qui, c'est des lions.
Faut pas traîner les pieds.
Ils vont pas traîner les pieds.
Expéditif. Hein.
Et ce que nous aimons, ce que nous apprécions, c'est que parmi ces jeunes ici, il y a des héros qui vont véritablement changer l'histoire économique de ce pays demain. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ont faim d'exploit. Et c'est sûr que avec l'encadrement du gouvernement, parce que le gouvernement est appelé également à faciliter les démarches à ces jeunes gens, parce que
surtout au guichet unique des créations d'entreprises. Voilà, on disait que c'était 3 jours. Dans 3 jours, vous avez les documents.
3 jours, 3 procédures.
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Bon, il y a un certain nombre d'efforts, un certain nombre d'initiatives que le projet a prises pour aider.
Pour accélérer
le travail pour le jeune. Je me rappelle, par exemple, à Goma, notre partenaire avait même réussi à obtenir un point focal du guichet unique des créations d'entreprises qui est dédié aux activités des jeunes. Donc, c'est la même chose qu'on peut refaire partout. Mais entre-temps, le ministre d'État Mouhandi a saisi son collègue, le ministre d'État Christian Mwando, du plan pour faciliter un certain nombre de choses. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a même une certaine harmonie au niveau du gouvernement pour aider à ce que les procédures soient facilitées et que les lauréats du concours, que ce soit au niveau des PME ou des jeunes, puissent obtenir rapidement les services administratifs dont ils ont besoin et les différentes validations, de sorte que nous puissions réaliser le programme dans le meilleur délai. Donc, au-delà de toutes les procédures et préalables administratifs et financiers, il y a un travail d'accompagnement technique qui doit se mettre en place jusqu'à la connexion au marché, parce que, je le répète, le projet, on a tendance à se focaliser sur le financement. Le projet, c'est bien plus que le financement. C'est une approche holistique qui prend en compte toutes les contraintes identifiées comme étant des challenges sur la voie de l'entrepreneuriat dans le pays. Donc c'est pourquoi nous parlons de la formation, nous parlons du coaching, nous parlons du mentorat, nous parlons même de la création des marchés. Parce que une chose est de produire, mais une autre encore, de pouvoir écouler le produit qu'on a mis au jour.
Bien, professeur Valmasamba, parlez-nous du coaching. Comment ça se passe? Est-ce que tous ces jeunes entrepreneurs doivent absolument se retrouver dans des incubateurs pour bénéficier d'un encadrement?
Donc, au niveau de l'accompagnement, au-delà de l'aspect lié à l'argent, donc à la subvention, nous avons trois éléments d'accompagnement. Nous avons le coaching. Le coaching individuel et le coaching de groupe. Le coaching individuel, c'est véritablement pour suivre chaque jeune par rapport à son projet, ses aspects liés à la confidentialité, ses stratégies qu'il déploie, son développement personnel. Le développement de compétences entrepreneuriales, des attitudes entrepreneuriales, le développement de compétences managériales. Donc, ça, c'est calqué par rapport à chaque jeune, par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il est et ce qui doit être son entreprise. Et au-delà de ça, il y a le coaching de groupe qui vient s'associer au coaching individuel pour essayer de résoudre des problèmes de groupe. Par exemple, si on considère qu'on doit accompagner les jeunes de l'agro-industrie, eh bien, on ne peut pas les mettre ensemble avec les jeunes qui sont, par exemple, dans l'high-tech. Ce sont deux problématiques différentes. Et ce sont des préoccupations différentes. Et donc, à ce moment-là, on a ce coaching de groupe qu'on appelle le coaching collectif. Ce coaching de groupe peut aussi répondre aux besoins spécifiques d'un certain nombre de groupes qui se dégageraient au fur et à mesure qu'on avancerait dans le coaching individuel. Le deuxième repas dans notre menu, ce sont des formations. Et donc, il y a des formations de mise à niveau que l'on organise pour essayer d'aider les jeunes à être au top des connaissances entrepreneuriales. Et ces formations, il y en a beaucoup. Et ces formations, une fois suivies, sont immédiatement, en ce moment-là, calquées ou traduites dans l'entreprise du jeune ou dans le projet qu'il cherche à déployer, et le coaching vient appuyer. Le troisième élément au menu, c'est le mentorat. Le mentorat ici, c'est quoi la différence entre le mentorat et le coaching? Le mentorat, c'est ce qu'on a à faire à un entrepreneur qui a réussi, qui aide un autre entrepreneur à réussir. Alors que le coaching, c'est pas forcément un entrepreneur. Le coaching, c'est quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur, qui accompagne un jeune. Cette personne est dotée des outils d'accompagnement pour lui permettre à le faire. Et le coach est permanent dans sa relation d'accompagnement avec le jeune, alors que le mentor, il est là, il n'est pas suffisamment permanent, mais arrive véritablement pour orienter les jeunes par rapport à certaines difficultés du métier qui peuvent se poser, étant donné son expérience. Voilà en réalité ce qu'on a dans le menu de l'accompagnement, au-delà évidemment des visites d'entreprise intempestives qui peuvent arriver pour aider les jeunes sur le terrain. Effectivement, tout jeune est obligé, hein, c'est une obligation, et ça va être mis dans la convention de financement, et les jeunes est obligé de participer à toutes ces activités d'accompagnement. Et donc chaque mois, un jeune aura deux rendez-vous de coaching individuel. Tous les deux mois, le jeune aura un rendez-vous de coaching de groupe. Chaque mois, le jeune aura un rendez-vous ou deux de formation. Et chaque mois, le jeune aura aussi un rendez-vous de mentorat. Et cela va se faire pendant six mois. Et pour le mentorat, il y a deux volets. Il y a le mentorat à contrat économique, là où c'est possible, et le mentorat sans contrat économique. Le mentorat sans contrat économique, ça peut concerner beaucoup plus les jeunes qui ont déjà leurs activités économiques et qui ont juste besoin de quelques conseils de PME qui ont réussi. Mmh. Mais le mentorat à contrat économique, c'est véritablement pour les jeunes qui démarrent, qui n'ont jamais réalisé de chiffre d'affaires, qui ne connaissent pas véritablement comment se passe, c'est quoi les métiers d'entrepreneur, et donc ils vont apprendre maintenant sur le tas, sur le terrain, les métiers d'entrepreneur, et pour les aider à réaliser au plus vite les chiffres d'affaires, eh bien ils peuvent travailler dans un contrat économique de sous-traitance entre PME et entreprise en création, ou alors des franchises, de façon à ce que le mentor lui apprend, l'aide d'abord à générer du chiffre d'affaires, oui. Pour que ça lui donne le goût du travail, oui. Mais dans l'entretemps aussi, le mentor va l'aider à apprendre le métier d'entrepreneur et en même temps à implanter son entreprise sur le terrain.
Et ces jeunes n'auront rien à payer au mentor. Le mentor est pris en charge par le projet.
Le mentor n'est pas pris en charge par le projet, on ne paye pas le mentor. Mais si c'est un contrat économique, les deux se retrouvent, c'est un contrat win-win. Sur fait la sous-traitance, et ça c'est bien aussi, hein, c'est une meilleure façon d'observer aussi la relation de sous-traitance entre une PME et une entreprise en création. Ça peut intéresser l'autorité de régulation de la sous-traitance, et voilà, c'est un contrat win-win. Ils se mettent ensemble, on encadre ça, ça marche, bon, ça marche pas, et bien on s'engage pas vers ce type de contrat, mais le mentorat on n'a pas de budget pour ça, et oui. C'est mieux que c'est bien de voir le mentor, donc le PME qu'on a accompagné, qui ont su bénéficier gratuitement du soutien du gouvernement congolais et de la Banque mondiale à travers le pas d'imprimé, qui à leur tour aussi a essayé de le faire au niveau des jeunes.
Bien.
C'est ça, préparer la relève.
D'accord. Nous parlons du processus d'octroi de la subvention COPA aux jeunes lauréats qui ont les lauréats de COPA du concours de plan d'affaires du programme PADEMPME. Jean-Luc Moilou, vous êtes chargé de communication de ce programme d'appui et développement des micro et petites entreprises. Certains jeunes espéraient par exemple recevoir cet argent directement, ils vont acheter, louer des bureaux ou ils vont commencer à fonctionner, acheter les ordinateurs, acheter quelques matériaux et puis peut-être se taper un petit congé à Dubaï et revenir et puis après la compétition, maintenant, ça complique la situation.
Bon, ben, je ne sais pas pour qui ça compliquerait la situation, mais nous avons confiance en nos jeunes.
Oui.
Nous avons confiance en nos lauréats. Nous les avons côtoyés depuis un certain temps. Vous savez que, avant la sélection, nous avons fait un travail de sensibilisation. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une nouvelle mentalité qui est en train de voir le jour au sein de la jeunesse congolaise. Ce qui manque, c'est la structuration de tout cela. Et heureusement que ce programme est arrivé. Déjà, le document des stratégies pour le développement des PME avait identifié les différentes contraintes et déterminé les axes d'intervention. Parmi les axes d'intervention, il y a la formation. Les gens ont besoin d'apprendre la formation pour que nous quittions le monde de la débrouille et que nous puissions nous insérer dans le monde de la production, une production structurée, une production intelligente. Parmi les problèmes identifiés, il y avait le problème des financements. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'instruments, un certain nombre d'outils que le gouvernement congolais a mis en place pour permettre à tous ceux qui veulent entreprendre de pouvoir accéder au financement. Ne serait-ce qu'en termes de support des risques avec par exemple le fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo.
Oui.
Il y a également tout à l'heure le professeur Val en évoquant la question du mentorat a parlé de cette collaboration qui doit exister au sein de l'environnement économique. Nous devons apprendre à travailler ensemble, sinon nous périrons tous ensemble.
D'accord.
Et donc, le projet vise également à mettre en réseau les différents protagonistes, de sorte que nous puissions être, en tout cas, chorus dans ce travail que nous faisons de pouvoir élever économiquement notre pays.
Voilà. Certains jeunes qui s'agitent, peut-être qu'il y a des manipulateurs derrière, soit ceux qui n'ont pas été sélectionnés, certains incubateurs ou des hommes politiques. Alors, quel message pour terminer vous lancez à tous ces jeunes lauréats du concours plan d'affaires?
Bon, à ceux qui sont déjà dans le programme avec nous, ils étaient là hier, pour ceux des Kinshasa en tout cas, ils ont pu écouter de leurs propres oreilles les différents témoignages.
Et Ils ont posé toutes les questions possibles. D'accord.
Et ce n'est pas fini. Nous leur avons promis notre disponibilité. Mmh. Elle n'a jamais fait défaut. Notre numéro de téléphone comme projet, c'est 0811 579 277, jamais fermé. Nous répondons toujours lorsque les questions nous sont posées aux heures des services. Mais ce que nous disons, le coordonnateur national, Monsieur Alexis Mangala Ngongo, l'a dit hier. Il a demandé à ces jeunes de rester concentrés sur leur objectif.
Le bruit ne pas se laisser distraire.
Le bruit ne feront que distraire. Le projet est bien conçu, le projet est très clair. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous au PADEMPME, nous sommes très confortables de pouvoir dire que nous sommes plus ou moins sûrs de pouvoir atteindre tous nos objectifs. Parce que déjà, rien qu'avec les PME, nous avons explosé tous les indicateurs qui avaient été fixés dans le document d'évaluation du projet à la base. Au point que aujourd'hui, le bailleur de fonds, la Banque mondiale, qui nous accompagne dans le projet, nous a même sollicité du gouvernement une nouvelle requête pour l'extension de ce projet à nos amis d'autres villes. Donc,
le projet va s'étendre.
Une autre dizaine. On pourrait ajouter aux quatre premières villes que nous avons, peut-être une dizaine, peut-être plus, je ne sais pas, ça dépendra des évaluations qui seront faites en temps utile, et il y a déjà des consultations qui sont menées à ce niveau-là. Au mois de novembre ici, nous avons reçu un haut cadre de la Banque mondiale qui travaille dans le cadre du développement du secteur privé et également du marché financier. Il est venu, il a rencontré un certain nombre d'autorités et des acteurs de l'écosystème. C'est dire que nous sommes sur la bonne voie Et pour que nous puissions avancer, nous devons rester focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'objectif. L'essentiel, c'est de reprendre le destin économique de notre pays, alors que aujourd'hui nous savons tous que l'économie congolaise est entre les mains des étrangers.
Bien. Donc nous espérons que dans 10 ans, on aura des grands entrepreneurs congolais qui vont venir rééquilibrer le marché.
En tout cas, 10 ans, c'est beaucoup. Je suis sûr que tel que nous sommes lancés et avec l'éducation qui est en train d'être faite actuellement et tous les instruments que le gouvernement a mis en place, si nous sommes sérieux, si nous ne nous laissons pas distraire par des bruits, des gens qui n'ont rien à faire, eh ben, nous pourrons étonner le monde
en
moins de 10 ans.
Bien, Jean-Luc Moilou, chargé des communications de PADEM PME, nous vous disons merci. Merci également au professeur Valma Samba, qui est le coordonnateur de IF Entrepreneuriat. Merci à vous et excellente journée.
Merci à tout le monde.
Merci, au revoir.
Au revoir.